Radio France Internationale, 18h à Paris, il est 20h à Moscou.
Les mots en piste.
Un coup de téléphone entre Vladimir Poutine et Ilham Aliyev ce samedi. Le président russe a joint son homologue azerbaïdjanais pour s'excuser après le crash mortel d'un avion de l'Azerbaïdjan Airlines cette semaine. Moscou, en revanche, qui ne reconnaît pas avoir abattu l'appareil. Le Hezbollah libanais est-il encore en capacité de maintenir sa résistance comme il le prétend ? On pose la question à un spécialiste alors que le mouvement chiite est largement affaibli après son conflit direct avec Israël et la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Et puis, de plus en plus de microplastiques dans le sol français. C'est le constat d'une étude menée et publiée par l'Agence de la transition écologique. Un phénomène sans précédent, aux risques sanitaires importants. 3 jours après le crash mortel d'un avion d'Azerbaïdjan Airlines dans l'espace aérien russe, le président Vladimir Poutine a présenté des excuses à son homologue Ilham Aliyev, mais il ne reconnaît pas pour autant que Moscou a abattu l'appareil. Lui qui appelle à une enquête objective et transparente. Correspondance dans la capitale russe de Jean-Didier Revoin.
C'est Vladimir Poutine qui a pris son téléphone pour appeler son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. Le président russe s'est alors excusé, non pas d'avoir abattu par erreur cet avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines qui effectuait mercredi la liaison Bakou-Grozny, mais du fait que ce qu'il a qualifié d'incident tragique ait eu lieu dans l'espace aérien russe. Vladimir Poutine a une nouvelle fois adressé ses condoléances profondes et sincères aux familles des victimes. Il a encore souhaité un prompt rétablissement aux blessés, mais le président russe a répété qu'une attaque de drones ukrainiens avait eu lieu sur la capitale tchétchène au moment où l'avion devait y atterrir et que la défense aérienne russe avait tenté de les neutraliser. Pour le moment, Moscou n'a pas confirmé avoir abattu l'avion de ligne. Pour cela, il faudra attendre les conclusions définitives de l'enquête, dont on sait que les résultats préliminaires attribuent la chute de l'appareil à une interférence externe de nature physique et technique. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
J'ajoute que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également déclaré sur le réseau social X avoir appelé Ilham Aliyev pour lui présenter ses condoléances et exiger que la Russie fournisse des explications claires. Au Proche-Orient, l'Organisation mondiale de la santé fait savoir ce samedi que l'hôpital Kamal Adwan, dernier grand établissement sanitaire du nord de la bande de Gaza, mis hors service par un raid israélien, était désormais vide. Les 15 patients critiques qui restaient, 50 soignants et la vingtaine d'agents de santé ont été transférés à l'hôpital indonésien qui manque d'équipement et de fournitures nécessaires pour prodiguer des soins adéquats, précise l'OMS. Les autorités sanitaires de Gaza affirment également que le directeur de l'hôpital est détenu par Israël. Pendant ce temps-là, l'armée israélienne affirme que 2 projectiles ont été tirés depuis le nord de l'enclave palestinienne cet après-midi. 2 missiles interceptés, fait savoir l'armée de l'air et l'armée israélienne qui annonce à l'instant que son opération, je cite, contre un centre de commandement du Hamas dans un hôpital est terminé et confirme avoir bel et bien arrêté son directeur pour l'interroger. De son côté, le ministère de la Santé du Hamas évoque la mort de 48 personnes sur les dernières 24 heures. Et à l'heure de tirer les bilans de l'année 2024, la fin d'année marquée par la fuite de Bachar al-Assad de Syrie, mais alors, comment la chute du régime peut-elle rebattre les cartes pour le Hezbollah au Liban? C'est l'une des questions qu'a soulevé cet événement soudain. Le mouvement chiite a subi coup sur coup une sévère défaite infligée par l'armée israélienne et déstabilisée par la chute de son allié syrien. Le 9 janvier prochain, le Liban doit tenter d'élire son président lors d'une réunion du Parlement, alors que pendant des années, le Hezbollah a imposé ou tenté d'imposer son candidat. Naïm Kassem, le nouveau chef du Hezbollah, assure que la résistance va continuer, mais le mouvement, en a-t-il encore les moyens? Question posée à Joseph Baou, professeur de sciences politiques, directeur de l'Institut Issam Fares de politique publique et d'affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth.
Le parti a perdu très, très concrètement, très matériellement, pratiquement 70% de ses capacités humaines, logistiques, en armes, en munitions et en capacité de se réapprovisionner avec la chute, disons, du domino syrien. Je crois que les déclarations de Naïm Kassem sont très largement rhétorique adressée à son public. Il a besoin quand même de garder un certain moral face à un public qui est aujourd'hui extrêmement, disons, démoralisé, blessé aussi. C'est une société qui a aujourd'hui un ego très profondément blessé, qui s'est vu humilié par l'armée israélienne, qui est aujourd'hui déplacé physiquement, qui a perdu beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mobilier, immobilier. La société chiite est à reconstruire aujourd'hui. Donc le Hezbollah qui se considère manière, en tout cas en partie responsable de cette société, a besoin de lui remonter le moral et de continuer à la mobiliser sur le thème de la résistance. Le problème, c'est que cette mobilisation ne peut pas aller très loin, et je crois qu'à un moment donné, le parti va devoir faire le choix de mobiliser sa propre société sur d'autres thématiques.
Joseph Baou, qui était l'invité ce midi de Charlotte Hydrac, entretien retrouvé en intégralité sur RFI.fr. Le Liban, qui a expulsé samedi environ 70 officiers et soldats syriens entrés illégalement dans le pays, selon un responsable de la sécurité nationale. Information confirmée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. J'ajoute que selon une source de sécurité libanaise, Rifat el-Assad, oncle de Bachar, est surnommé le boucher de Hama, a pris un avion depuis l'aéroport de Beyrouth. Et puis Hakan Fidan, chef de la diplomatie turque, s'est entretenu au téléphone ce samedi avec son homologue américain Anthony Blinken. Il lui a une nouvelle fois signifié que les combattants kurdes syriens ne pouvaient pas être tolérés en Syrie. En bref, encore, on a appris qu'une délégation du parti turc pro-kurde DEM doit rencontrer le fondateur du PKK, Abdullah Öcalan, emprisonné à vie sur une île au large d'Istanbul. Il y est détenu depuis 1999 et cette visite sera la première du parti depuis 10 ans. Ce n'est qu'au cours de ces dernières heures que les autorités italiennes ont annoncé que la journaliste Cecilia Sala, qui travaille pour le quotidien de droite Il Foglio et pour l'agence de podcast Cora Media, a été arrêtée dans un hôtel de Téhéran le 19 décembre dernier, incarcérée dans une cellule en isolement de la prison d'Evin. À ce jour, les raisons précises de son arrestation restent inconnues, selon le chef de la diplomatie Antonio Tajani, qui espère en la libération rapide de la jeune femme et œuvre avec le soutien de tous les partis du pays. Correspondance à Lenir.
Les autorités iraniennes ont gardé le silence sur l'arrestation de la journaliste italienne depuis le 19 décembre. L'Italie a dénoncé cette arrestation, qualifiée d'inacceptable. Elle était arrivée en Iran le 12 décembre avec un visa journalistique et devait rentrer au pays le 20 décembre. Si les autorités iraniennes n'ont fait aucun commentaire jusqu'à maintenant, cette arrestation intervient quelques jours après celle en Italie d'un jeune Iranien à la demande des États-Unis pour avoir violé les sanctions américaines contre l'Iran. Il s'agit de Mohamed Abedini qui devait se rendre en Suisse. Un diplomate italien et l'ambassadrice suisse ont été convoqués il y a quelques jours au ministère des Affaires étrangères qui a protesté contre cette arrestation. La question est de savoir si Cecilia Sala a été arrêtée en réaction à l'arrestation de Mohamed Abedini ou bien il y a d'autres raisons. En tout cas, par le passé, l'Iran a arrêté des ressortissants étrangers pour procéder à des échanges avec des Iraniens arrêtés dans différents pays occidentaux. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
C'était bien Siavosh Ghazi depuis Téhéran et non Anne Le Dnir depuis Rome sur le même sujet. L'environnement, pour refermer ce journal avec cette première, une étude publiée cette semaine par l'Agence française de la transition écologique qui révèle une présence quasi systématique des microplastiques dans ces sols à vocation agricole en France. Si de nombreuses études se sont déjà penchées sur la contamination qu'ils génèrent dans les océans, la pollution des sols par les microplastiques est en revanche beaucoup moins documentée. Et mauvaise nouvelle, cette étude révèle une catastrophe de grande ampleur. Les précisions signées Igor Strauss.
Sur les 33 échantillons de sols analysés, 25, soit 76%, contenaient des microplastiques. Une pollution sans précédent, avec quelques nuances suivant les surfaces étudiées. Selon les résultats de cette étude, toutes les prairies et les trois quarts des vergers et des sols de grande culture sont affectés. Seules les forêts résistent, avec un quart des sols contaminés. L'Agence de la transition écologique précise que ces données ne permettent pas d'identifier la source des microplastiques, mais suppose qu'une part de leur origine provient des pratiques agricoles mises en œuvre. En moyenne, les sols analysés contiennent 15 particules de microplastiques par kilogramme de sol, principalement du polyéthylène et du polypropylène, des matériaux que l'on retrouve couramment dans les emballages en plastique et connus pour être des perturbateurs endocriniens. Pour les auteurs du rapport, cette présence quasi systématique des microplastiques dans les sols montre qu'il est urgent de poursuivre ces études pour pouvoir in fine mettre en place un plan d'action efficace pour limiter la dégradation des sols et les risques sanitaires.
Igor Strauss du service environnement de RFI. 18h09 ici à Paris comme à N'Djamena où demain un peu plus de 8 millions de Tchadiens sont appelés aux urnes pour un triple scrutin législatif, communal et provincial. Trois élections qui doivent tourner la page de la transition débutée dans le pays en 2021. Plus d'informations dans la prochaine édition consacrée à l'actualité africaine. Rendez-vous à 18h30 temps universel.